Bon, enfin, j'enchaîne quand même, mais je vais peut-être partir de ce point-là, finalement, parce que par rapport à ce que j'ai pu entendre ce matin, finalement, j'ai entendu beaucoup de choses pessimistes. Alors moi, j'ai envie de jouer un petit peu le candide et puis de mettre un petit peu d'optimisme dans ces discussions. Bon, moi, je suis sociologue. Et bon, je me suis intéressé aux questions de l'évaluation parce que j'y voyais une interaction forte avec les politiques d'éducation, qui est véritablement mon objet principal. Donc, je suis pas du tout un spécialiste de l'évaluation, mais j'étais amené à rencontrer ces questions de l'évaluation, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et j'ai trouvé cette aventure un petit passionnante. Alors, bon, ce qui me fait sortir de mon rôle de sociologue aujourd'hui, parce que je pourrais finalement être sociologue, et le bon sociologue va interroger. Comme vous le disiez, la norme, hein, quelle c'est cette stratégie de Lisbonne qui nous tombe dessus, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, cette prescription sur le système et sur les acteurs, et puis on sait que les acteurs échappent toujours aux prescriptions, et donc les sociologues passent leur temps à expliquer comment les acteurs échappent aux prescriptions. L'autre façon d'être critique, on l'a eu ce matin, c'est de critiquer la mesure elle-même, hein, et son épistémologie. On sait que la mesure est pas fiable, qu'il y a toujours des problèmes de codage, de catégorisation, de classement, on nous l'a dit ce matin. Et donc c'est assez facile de démonter le principe même de l'évaluation et les outils qui les supportent. Une autre façon, et c'est un débat assez franco-français, c'est soit d'aller véritablement sur des interrogations philosophiques sur la définition même de l'évaluation, ou sur la définition des compétences. Alors là, on peut en discuter pendant des journées. Qu'est-ce qu'il y a derrière compétences? Quelle est la différence entre compétences, capacités, évaluation? Mais qu'est-ce qu'on évalue? Qui évalue les évaluateurs? Enfin, on passe son temps dans des débats philosophiques, et finalement, on sert pas tellement, hein, finalement, les praticiens qu'on doit servir, c'est-à-dire les enseignants qui se posent des questions dans leur établissement et dans leur classe et qui se disent, finalement, comment je pourrais évaluer les élèves. Alors, sur les principes, on parlait beaucoup d'égalité. Vous voyez, l'égalité ressort tout de suite. L'égalité des chances. Dans les mondes anglo-saxons, ils se préoccupent aussi de l'égalité des chances. Hein. Alors, ils parlent évidemment d'égalité de résultats, mais ils parlent aussi d'égalité des droits. Et c'est sans doute au nom de l'égalité des droits qu'ils ont abandonné une certaine conception de l'égalité des chances qui misait fortement sur l'égalité d'accès des élèves dans la scolarité obligatoire, et qu'ils ont donné place à la reconnaissance des différences, comme on le dit, mais au fait de porter d'autres droits, c'est-à-dire, par exemple, le droit pour les familles, même les familles populaires, de choisir leur école publique ou privée. Alors, ça peut paraître évidemment scandaleux, mais enfin, c'est un droit, et c'est un droit qui a été reconnu, qui a été élargi. Le droit aussi pour les minorités ethniques ou pour les élèves handicapés, de participer à une scolarité normale et que leurs droits soient reconnus pour qu'ils aient des efforts particuliers qui soient portés à destination de ces publics qui avaient des difficultés scolaires plus importantes que les autres. Le droit pour les élèves les plus talentueux à ne pas forcément être victimisé par des élèves plus en difficulté parce que ils sont dans des contextes d'apprentissage qui leur permettent pas d'exploiter la variété de leurs compétences. Le droit pour ceux qui abandonnent leur scolarité ou qui sortent sans qualification, on en a parlé, à intégrer des dispositifs de la seconde chance publique pour justement pouvoir bénéficier véritablement d'une seconde chance, parce que si j'en crois Bourdieu et Passeron, et les enseignants aussi qui ont d'une certaine manière acquis cette culture bourdieusienne, bah, ils montrent bien que le système de scolarité initiale est profondément inégalitaire et qu'il n'y a pas de seconde chance. Il y a une chance, on la saisit, et puis si on la saisit pas, eh bien on a des difficultés en termes d'insertion professionnelle et carrière professionnelle. Donc ça renvoie, Éric Larcher l'a dit, à l'idée qu'il y a un changement de référentiel important qui justifie cette transformation de l'évaluation et de l'évaluation des compétences. C'est l'idée d'une formation tout au long de la vie, hein, qui est déjà mis en œuvre en tant que politique dans un certain nombre de pays, avec la possibilité pour des individus de revenir non seulement en formation continue, mais aussi en formation initiale. Hein. Donc c'est ce débat-là et ces débats sur l'équité, sur l'égalité, c'est évidemment des débats très importants. Bon, je voudrais pas centrer évidemment mon intervention là-dessus, et je voudrais être beaucoup plus pragmatique, comme le sont les anglo-saxons. Non pas que j'ai envie de vous présenter un modèle et puis ou des bonnes pratiques, parce que c'est un langage qui est utilisé aussi dans la communauté internationale de recherche, mais essayer à partir du cas néo-zélandais, eh bien à partir de cette différence, faire réfléchir sur j'irais les forces et les faiblesses, j'irais de l'évaluation à la française. Alors on me dirait, bien évidemment, Nouvelle-Zélande, c'est un contexte culturel différent, des institutions différentes. Ben oui, oui, c'est vrai. Mais si on regarde l'histoire, et je sais que Bruno y est attaché, on regarde l'histoire longue du système éducatif néo-zélandais, il n'est pas très différent du nôtre. À l'origine, dans les années 60-70, enfin à l'origine, mais avant, dans les années 60-70, on a un modèle d'école compréhensive qui est un modèle international, avec un tronc commun pour tous les élèves. On a des inspecteurs qui viennent dans les établissements scolaires et qui inspectent les enseignants sur le bon respect des programmes qui sont des programmes disciplinaires. On a un ministère de l'éducation hyper puissant qui est là pour définir un curriculum, enfin des programmes nationaux, et pour développer les inspections des écoles. On n'a pas tellement de changements. Les changements, ils vont se faire, évidemment, à partir du début des années 80, et c'est des changements qui se font dans une conjoncture internationale, puisque les changements qui se font en Nouvelle-Zélande, ils se font aussi en Angleterre, ils sont aussi aux États-Unis, ils se font aussi dans un certain nombre de pays. Alors ça se traduit quoi, ces changements, très rapidement? Ces changements, c'est d'abord un allègement fort des effectifs au sein du ministère de l'Éducation nationale, enfin, néo-zélandais. Hein, c'est-à-dire qu'on réduit fortement le ministère, et puis on délègue un certain nombre de compétences aux collectivités locales, et on renforce l'autonomie des établissements scolaires. Donc c'est une décentralisation du système éducatif, mais une décentralisation beaucoup plus forte, avec une autonomie beaucoup plus forte des acteurs locaux. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la Nouvelle-Zélande, et c'est pour ça que j'ai retenu ce cas-là, c'est qu'on va maintenir dans toute l'histoire du système éducatif depuis les années 60, notamment dans les années 80 et 90, un curriculum national, des programmes nationaux auxquels le gouvernement néo-zélandais, le ministère de l'Éducation néo-zélandais est très attaché. Mais par contre, et ce qui est assez différent de l'Angleterre ou des États-Unis, on ne va pas exercer de prescription forte sur les acteurs. Vous savez, aux États-Unis, enfin vous ne savez peut-être pas, je vous le dis, aux États-Unis et en Angleterre, à partir du début des années 80, à la suite du rapport Nation at Risk, dont a parlé Jean-Louis Dorouet ce matin, on va mettre en place des tests à différents niveaux de la scolarité. On va fixer une obligation de résultat au système éducatif en disant aux enseignants et aux établissements et aux chefs d'établissement, il faut que vous soyez performants, on vous met des outils à disposition, débrouillez-vous pour augmenter les résultats des élèves. Et si vous n'arrivez pas à augmenter les résultats des élèves, vous serez sanctionné. Vous serez récompensé si vous arrivez à obtenir des bons résultats, mais vous serez sanctionné si vous n'y arrivez pas. En Nouvelle-Zélande, ça s'est pas fait, et j'expliquerai un peu plus loin pourquoi, parce qu'il y a eu un espèce de compromis assez fort, un compromis institutionnel, un compromis social assez fort, qui fait que l'évaluation s'est développée, mais s'est développée, je dirais, de manière souple et non prescriptive. Et bon, c'est bien ce qu'on voit quand on regarde le système éducatif français, parce qu'il y a des prescriptions fortes du ministère de l'Éducation nationale. On a une loi de modernisation de l'école qui fixe un objectif de résultat au système éducatif, qui a l'air d'épouvanter tous les acteurs. Mais quand on regarde bien dans les établissements scolaires et dans les classes, ça va assez doucement. Et puis la mise en œuvre des prescriptions officielles, ça met du temps. 15 ans, 10 ans, bon, et puis le temps qu'on mette en place cette réforme, et on est passé à une seconde réforme. Donc, il n'y a pas tant de prescriptions que ça dans le système éducatif français, même si on le croit. Puis finalement, il y a une certaine, alors peut-être que le chef d'établissement là-bas va me contredire, mais il y a une certaine autonomie locale. Il y a une certaine autonomie locale. Et quand on regarde un établissement, on compare à un autre finalement, on se rend compte que c'est pas le même établissement, c'est pas la même politique d'établissement, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes acteurs, etc. Enfin, moi, j'ai passé ma vie dans les établissements scolaires en tant que sociologue, je peux vous dire que c'est tout à fait vrai. J'interrogeais même un inspecteur d'académie qui me disait, j'ai fait plusieurs départements, j'ai jamais appliqué la même politique. Donc, il faut arrêter de croire qu'on a un système harmonisé, centralisé, qui impose des normes par le haut, et puis que les acteurs mettraient en œuvre. C'est pas du tout ça. Alors, mon souci, c'est d'être utile aux formateurs, aux praticiens. C'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude, mais je voudrais montrer, finalement, dans l'esprit de nos chercheurs anglo-saxons et des décideurs politiques, montrer des choses qui marchent. Parce que la question qui se pose, c'est pas les grands principes autour de l'évaluation, c'est what works, qu'est-ce qui marche. Et on regarde, on définit par rapport à ça, et on agit par rapport à ça. Alors, dans leur esprit, c'est qu'est-ce qui marche. Ça veut pas dire que si on transposait ça en France, ça marcherait du jour au lendemain pour les raisons que j'ai évoquées. Mais ça m'a semblé intéressant de rendre compte de ça. Alors, mon exposé, il se fera en trois étapes. D'abord, je partirai de la situation française, parce que la situation française, on parle pas du tout de tests. On commence à parler un peu d'évaluation, on a des évaluations nationales, elles ont été présentées ce matin, on commence à parler un petit peu de PISA, mais finalement, on s'aperçoit que la majorité des enseignants, ils évaluent les élèves à travers la notation. Donc la question qui est posée depuis des années dans le système éducatif, et la table ronde demain après-midi reviendra là-dessus, enfin j'espère qu'ils reviendront là-dessus, c'est comment progressivement s'écarter de la notation pour faire entrer d'autres formes d'évaluation des élèves dans l'école. Et ça, pour l'instant, c'est la quadrature du cercle, hein, je dirais, c'est le mythe de Sisyphe, hein, et il n'est pas encore vraiment très résolu. Mon deuxième objet, ce sera d'évoquer cette notion d'évaluation pour les apprentissages, qui est un concept anglo-saxon, et qui fait fureur en ce moment, depuis plusieurs années, dans les milieux académiques, mais auprès des décideurs politiques aussi. Donc on le traduit, alors je l'ai traduit « évaluation pour les apprentissages », le terme c'est « assessment for learning ». Alors je vais vous dire pourquoi j'ai traduit « évaluation pour les apprentissages », parce que j'aurais pu dire « évaluation pour apprendre ». Hein. Mais avec « évaluation pour apprendre », on reste dans une espèce de rhétorique philosophique, « évaluation pour apprendre », etc. Et on saisit pas du tout cette dimension fortement pragmatique, cette dimension fortement ancrée de l'évaluation et des apprentissages pour les anglo-saxons. Parce que les choses se passent en contexte et en situation, et hors de là, point de salut. Hein. Donc l'évaluation pour les apprentissages m'a semblé plus fidèle en termes de traduction, et j'essaierai de montrer comment il a pu répondre non seulement à des préoccupations des chercheurs, parce que le but des chercheurs, c'est d'inventer des nouveaux concepts ou des nouvelles théories sur l'évaluation, mais c'est parce que aussi ça a répondu à des préoccupations fortes des décideurs politiques et des praticiens. Et je m'appuierai sur le cas anglais pour vous montrer comment cette notion d'évaluation pour les apprentissages a émergé et quelles ont été les conséquences sur la politique anglaise et plus largement au niveau international. Et puis, alors, troisième objectif, c'est d'essayer de montrer que cette notion d'évaluation pour les apprentissages, eh bien, elle a été utile au moins pour mettre en œuvre une stratégie nationale de l'évaluation en Nouvelle-Zélande, construite autour de cette référence commune, qui est devenue une référence commune, de l'assessment for learning. Et vous verrez, à travers les exemples que je démontrerai, que ça nous fera réfléchir sur un certain nombre de choses qu'on a dit ce matin concernant la place des évaluations nationales, des banques-outils, la place de PISA, etc. Parce que là aussi, les anglo-saxons, à mon avis, les néo-zélandais ont fait des efforts importants d'innovation et de réflexion hein, sur ces questions d'évaluation depuis une vingtaine d'années. Vous voyez que les anglo-saxons, hein, c'est pas des idiots culturels, hein, je veux dire, ils savent réfléchir aussi, ils se posent des questions, quand ils font face à des problèmes, eh bien, ils essaient pas de maintenir une théorie qui tient pas la route, ou des principes qui tiennent pas la route, ils essaient d'ajuster leurs principes en permanence, et on peut dire que la conception de l'évaluation qui avait à l'issue de A Nation at Risk 1983 et celle qu'on trouve aujourd'hui en 2008 en Angleterre, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, c'est plus du tout la même. Il y a eu véritablement 20 ans d'évolution et de transformation des conceptions de l'évaluation. Alors, partons d'un cas français. Tout simplement, je peux vendre la mèche, c'est une lettre d'une professeure d'école envoyée aux parents d'élèves, dont je suis, hein, puisque j'ai une fille qui est scolarité en CM2, bon, une fille qui a un an d'avance, qui est la première de sa classe, donc vous voyez, elle n'a pas de problème de scolarité, donc c'est pas du tout, pour moi, un sentiment revanchard par rapport à cette institutrice ou professeur d'école qui a envoyé cette note aux parents. Mon souci était plutôt de vous montrer la conception qu'elle a de l'évaluation. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que le PowerPoint est un peu éloigné, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que elle parle évidemment du bulletin de notes, et le bulletin de notes pour elle semble déterminer à lui seul le travail des élèves. Le travail des élèves qui est conçu par elle comme un effort à faire. Hein. Il faut que les élèves fassent des efforts pour être plus performants. Hein. Et puis la mesure de la performance, c'est le bulletin de notes. Et pourquoi ils sont pas performants ces élèves? Parce que ils font pas leurs devoirs, qu'ils ne revisent pas leurs leçons de manière régulière. Donc pour elle, la mémorisation et la répétition régulière sont conçus comme des ressorts essentiels de l'apprentissage. Il faut dire que c'est une enseignante dévouée hein, au service de ses élèves, et vraiment elle fait tout pour faire progresser ses élèves. Donc j'en veux absolument pas à cette enseignante. Mais la tâche de l'élève, c'est d'abord d'évaluer son travail. Il faut qu'il se débrouille, c'est à lui d'évaluer son travail, de travailler régulièrement, et comme ça, il pourra s'orienter, notamment il pourra avoir accès à la sixième. Hein. Donc cette idée d'articulation forte entre évaluation et orientation dont tu parlais, on voit bien, c'est très présent dans l'esprit de notre professeur. Et puis, ce qu'elle dit, la remédiation, c'est quoi? C'est la sanction. Hein. Remédier. Pour remédier à cela, je vais multiplier les récitations de leçons surprises. Alors comme ça, l'interro-surprise qui va piéger les élèves et va les obliger à redoubler d'efforts. Hein. Et comme ça, voilà. Donc elle est, c'est la conception qui est là de l'évaluation. Alors j'ai appris entre-temps qu'elle faisait, notamment pour les remises des copies, elle faisait défiler les élèves à son bureau, les notes allant de 20 à 0, et puis elle faisait un commentaire des travaux des élèves. Alors c'était un peu moins officiel que la remise officielle du bulletin de notes, où là, la remise officielle du bulletin de notes, l'élève va avec pour la remise de son bulletin, et elle lui fait des louanges, ou évidemment, elle le critique devant les autres élèves, en disant « tu es vraiment brillant, ou alors vraiment médiocre, qu'est-ce que tu fiches, etc. etc. » Donc, beaucoup d'élèves, je sais ça par ma fille, beaucoup d'élèves apprécient, surtout ceux, évidemment, qui traînent toujours des 3 ou des 4 toute l'année, ils se sentent un petit peu stigmatisés. Alors, c'est pas que cette enseignante n'ait pas été formée, je l'espère du moins, et vous, certains d'entre vous formateurs du FM me le diront, mais elle a été formée à l'évaluation. J'ai regardé cette enseignante, elle a 27 ans, donc elle a fait sa formation à l'UFM de Lyon, donc j'ai été voir un petit peu dans les programmes de l'UFM de Lyon, puis j'ai regardé, puis je me suis rendu compte, puis j'ai vu qu'il y avait quand même 80% du temps de formation des enseignants qui était consacré à la didactique des disciplines. Bien. Je me suis dit sans doute que dans la didactique des disciplines, on enseigne évidemment l'évaluation et les différentes composantes de l'évaluation, comme vous connaissez maintenant, évaluation sommative, évaluation diagnostique, évaluation formative. J'ai regardé que le temps consacré à la gestion de la classe, aux problèmes disciplinaires, et ce qui apparaissait vraiment en toutes lettres comme évaluation, faisait à peu près 10 à 15% du temps de formation des stagiaires IFM. Alors je me dis, elle a été évidemment sensibilisée à l'évaluation, ce professeur, mais sans doute qu'elle n'a pas retenu ce triptyque de l'évaluation, évaluation sommative, évaluation diagnostique ou évaluation formative. Alors il faut s'interroger, mais je veux dire, elle n'est pas seule, parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est dit depuis une vingtaine d'années dans les rapports de l'inspection générale, j'y reviendrai. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les enseignants ont des pratiques traditionnelles de l'évaluation et qui sont assez peu réflexifs sur l'évaluation elle-même au sens d'évaluation formative ou d'évaluation diagnostique. Et cette critique, Pierre l'a développée ce matin, je ne vais pas la reprendre, et puis toi aussi, Bruno, la critique, elle date des années 20. Hein, Pierron, les enquêtes internationales, dont faut dire qu'elles étaient, les enquêtes internationales étaient financé par la fondation Carnegie à l'époque. Hein, tu l'as pas dit ce matin, mais c'était intéressant. C'est-à-dire que déjà, les grandes fondations américaines qui participent à travers leurs budgets colossaux au développement des recherches en éducation avaient étaient déjà intéressées par ces comparaisons internationales. Alors, elle a été reprise récemment, cette critique docimologique, par quelqu'un qui s'appelle Gérard Antibi et qui a défendu le concept de constante macabre. C'est-à-dire qu'il a fait une grande enquête auprès des classes, et puis il a montré, et des enseignants, et il a montré que les enseignants, en gros, s'arrangeaient toujours pour avoir le même pourcentage d'élèves avec des mauvaises notes. Et ça, quelle que soit la classe et quel que soit l'établissement scolaire. Or, on sait que d'une classe à l'autre, il y a des différences de niveau entre les élèves, d'un établissement à l'autre, mais cette constante, on la retrouve partout. On peut se poser la question, mais à quoi ça sert la dotation si c'est juste pour reproduire cette constante macabre d'une classe à l'autre. Alors après, il y a eu, dans les années 60, une critique pédagogique qui a donné lieu justement à cette distinction que j'ai présentée entre évaluation sommative, évaluation diagnostique et évaluation formative, hein, qu'on doit à Bloom, un psychologue américain très connu, les travaux ont été repris notamment par des Suisses, notamment Linda Halal, l'université de Genève, et qui montre que, il faut se détacher de l'évaluation sommative, que ce soit sous la forme de test ou d'une notation, et prendre en compte l'évaluation formative, c'est-à-dire une forme de rétroaction des apprentissages dans le cours de la planification pédagogique de l'enseignant. Et donc ça a été développé dans les années 60 et puis c'est arrivé progressivement dans les IUFM. Ça a même été mis en œuvre parce que cette conception de l'évaluation diagnostique, évaluation sommative, évaluation formative était liée à la définition d'une taxinomie des objectifs d'apprentissage de Bloom, et on s'est aperçu quand même que c'était un peu compliqué à mettre en œuvre pour les enseignants parce qu'il fallait gérer le temps des apprentissages, la variable temps était relativement importante dans cette pédagogie de la maîtrise, et puis il fallait aussi que l'enseignant évalue un certain nombre d'objectifs d'apprentissage, et il y avait beaucoup d'informations à prendre en compte, et on s'est aperçu, je crois que ça a été mis en œuvre notamment dans les lycées professionnels, on s'est aperçu finalement que les enseignants avaient beaucoup de mal à se débrouiller avec ce lourd appareillage l'évaluation. Enfin, toujours la critique était là, l'idée d'aller vers une évaluation, pas sommative, mais formative, qui prenne davantage en compte les apprentissages des élèves. Dans les années 90, bon, en France, on a eu une critique sociologique qui s'est développée à travers les travaux de Pierre Merle. Vous avez peut-être entendu parler de lui, qui a sorti récemment un livre, Les notes secrets de fabrication, que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas fait, qui montre justement, tout au long de son travail, parce que ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il travaille là-dessus, Pierre Merle, qui montre comment la notation, finalement, est le produit de petits arrangements et de petits compromis entre les élèves et les enseignants. Hein, c'est-à-dire que les élèves jouent dans l'affectif, vont négocier la note. « Ah, mais monsieur, vous pourriez pas me revoir ma note de 2 points ou baisser revoir ma note d'oral ?» Et puis l'enseignant aussi, en fonction notamment des contraintes disciplinaires auxquelles il a à faire face, utilise la notation comme un instrument de régulation, non seulement des apprentissages, mais de régulation de la discipline dans la classe. Par exemple, il achète la paix sociale. Bon, alors Merle développe aussi des subtiles analyses sur la place de la notation au baccalauréat, en montrant comment les enseignants passent leur temps à échapper aux prescriptions officielles et à faire des négociations de couloir ou des négociations au téléphone pour revoir le barème. T'as mis combien, toi? Ah ben moi j'ai mis 8, ben toi, moi j'ai mis 10. Ah ben on fait la moyenne, on se met à 9. Allez, on s'aligne tous à 9. Et puis les mecs, ils prennent leur gomme, et puis on l'a tous fait, hein, et ils effacent leur copie, et puis ils baissent d'un point ou ils montent un point dans le barème. Donc on voit bien que là, ça interroge fortement l'idée, je ne sais pas si on peut parler d'objectivité, mais enfin, je veux dire, la stabilité des évaluations par la notation et aussi leur degré de subjectivité. Et ça met à l'épreuve aussi, sans doute, les qualités de droit auxquelles peuvent prétendre nos élèves. Et puis, alors, là-dessus est venue une critique que j'ai appelée une critique institutionnelle. J'ai mis les années 2000, mais elle a commencé bien avant. Elle commence avec les écrits de Claude Tellot, hein, dans les années 90, quand il commence à parler justement de la nécessité de diffuser une culture de l'évaluation, qui se rend compte que les évaluations nationales sont assez peu utilisées par les enseignants. Et puis ça va être relayé par une critique de l'inspection générale à travers des rapports récurrents. L'un des rapporteurs, on le verra demain, hein, c'est Roger-François Gauthier, qui a écrit un rapport, l'évaluation des acquis des élèves, Pierre de Touche de l'école, où il montre justement comment, la mise en place des évaluations institutionnelles, on a maintenu des pratiques traditionnelles de la notation, et ces évaluations nationales, comme l'a dit très justement Bruno, sont absolument pas utilisées, voire mal utilisées par les enseignants, et quand elles sont utilisées, elles sont détournées de leurs principes mêmes. Alors, si on bascule dans le monde anglo-saxon, on est obligé de faire quelques exercices de traduction. Donc je me livrerai à ces quelques exercices de traduction pour vous montrer, essayer de vous montrer progressivement comment cette conception de l'évaluation est quand même assez différente de la conception, l'évaluation qu'on a en France, surtout une conception de l'évaluation très centrée sur la notation. En France, on n'a qu'un seul mot pour parler d'évaluation. On parle d'évaluation, mais en vérité, l'évaluation, ça renvoie à une multiplicité de contextes, d'actions, d'opérations qui sont faites par les enseignants et par les élèves. Alors, j'ai passé en revue un petit peu la littérature de recherche anglo-saxonne sur l'évaluation, et j'ai trouvé des définitions assez intéressantes, et puis certaines que j'ai fabriquées moi-même. Alors, assès, évaluer, il vient du latin assidere, qui signifie s'asseoir avec. Donc, dans l'évaluation, étymologiquement, on est supposé s'asseoir avec l'apprenant, ce qui implique qu'on a quelque chose à faire avec l'apprenant, avec les élèves, et non pas quelque chose à faire pour eux. C'est-à-dire que quand on donne un devoir aux élèves, on n'est pas dans, véritablement, la notion d'évaluer. Alors, si on essaie de comprendre un petit peu ce que veut dire évaluation, les anglo-saxons ont au moins 4 termes pour définir l'évaluation. Ils parlent d'abord d'assessment, qui est un mix entre asset, qui veut dire actif, et statement, état ou constat, c'est-à-dire qu'on constate des actifs, où on constate des acquis, où on évalue des acquis, si on remet ça dans une terminologie française. Donc là, on va avoir évidemment une mesure, hein, puisque les évaluations nationales mesurent les acquis des élèves, ou PISA mesure les acquis des élèves. Mais on a d'autres termes qui sont utilisés, comme le terme appraisal, qui veut dire jugement sur une situation, ou se faire une opinion sur une situation, ou se faire une opinion sur un élève. Mais juger un élève, juger une situation, c'est aussi évaluer, d'une certaine manière. Hein. Donc ce jugement de l'enseignant, il est important, et il y a une dimension importante de sa compétence professionnelle. Il ne faut pas oublier qu'il est là. Et ce jugement, il n'est pas forcément appuyé par une mesure, mais il est là, il est présent. Et dans les enquêtes qu'on avait fait sur l'usage des évaluations nationales, on avait vu que on avait par exemple des enseignants de mathématiques qui étaient experts en termes de jugement des situations et jugement des élèves, mais qui ne s'appuyaient pas forcément sur les évaluations nationales et qui avaient l'approche traditionnelle de la notation, mais qui ressentaient le besoin de s'écarter de cette approche traditionnelle pour juger ne serait-ce que l'activité des élèves ou les tâches des élèves en train de se faire. Bon. On a le terme « evaluation », voilà, il n'y a pas de problème de traduction, mais dans l'esprit des anglo-saxons, « evaluation », c'est davantage utilisé pour caractériser l'évaluation d'un programme pédagogique ou d'un programme éducatif ou d'une progression pédagogique. Et puis on a le terme « accountability », qu'on a mal traduit en France par « obligation de résultat », parce que ce n'est pas du tout l'esprit de l'accountability. Obligation de résultat, c'est comme si on imposait aux acteurs le fait d'atteindre des résultats. Mais c'est pas du tout ça, l'accountability. Accountability, c'est un mélange d'account. On va rendre compte d'une information et ability, on va développer sa capacité à rendre compte d'une information. Être capable d'une information, être capable de rendre compte aussi de son action. Donc derrière l'accountability, il y a l'idée que les acteurs se responsabilisent pour rendre compte de leur action ou pour rendre compte d'une information. Mais ça part des acteurs, c'est pas forcément quelque chose qui est imposé d'en haut, même s'il y a évidemment des formes de prescription qui existent, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, déjà, on voit qu'on élargit la notion d'évaluation et qu'on va avoir plusieurs usages de l'évaluation. Il faut bien comprendre que cette pluralité des usages renvoie à une pluralité des situations, des contextes d'apprentissage et d'enseignement. Alors, j'ai pris un exemple supplémentaire que j'ai tiré d'un PowerPoint qui sert à la formation des enseignants en Nouvelle-Zélande pour essayer de distinguer qu'est-ce que l'évaluation sommative et l'évaluation formative. Pour sortir de cette définition que je vous ai donnée au début, qui est une définition très officielle, très académique. Et ce qui est intéressant chez les anglo-saxons, c'est qu'ils prennent l'analogie du jardin et ils disent, si nous pensons que les enfants sont des plantes, bah, l'évaluation sommative des plantes, c'est le processus qui permet de les mesurer. C'est-à-dire qu'on va comparer et on va analyser les mesures, mais en soi, ces mesures n'affectent pas la croissance des plantes. Et l'évaluation formative, d'un autre côté, si on considère toujours que les élèves sont des plantes, équivaut à nourrir et à arroser les plantes de manière appropriée à leurs besoins, ce qui affecte directement leur croissance. Donc là, on voit bien deux conceptions opposées, finalement, de l'évaluation, évaluation sommative et évaluation formative, mais articulée et très fortement chez nos amis anglo-saxons, à une conception du développement individuel de l'élève et une conception du développement de ses apprentissages. Alors, évidemment, évaluation formative et évaluation sommative sont interconnectées, et comme le montrent les travaux qui ont été faits dans ce domaine, elles sont généralement liées dans leur construction et leur mise en œuvre, même si souvent les évaluations formatives, ont une composante informelle. Elles ont une composante informelle parce que ça se fait dans les interactions de l'enseignant avec les élèves dans la classe et ça passe pas forcément par une mesure ou par une information chiffrée. Et ça s'appuie aussi sur ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire l'idée que l'enseignant essaie d'avoir un retour d'information sur les apprentissages des élèves. Et cette dimension du feedback est relativement importante. L'idée quand même que l'évaluation, c'est pour l'enseignant mobiliser les ressources qui sont à sa disposition, et notamment des ressources informationnelles qui sont à sa disposition dans la salle de classe. Et ce qui est intéressant, et pourquoi ça intéresse nos amis anglo-saxons, cette notion d'évaluation formative, c'est parce que beaucoup de travaux ont démontré qu'elle avait un impact plus important sur l'apprentissage et la réussite des élèves que les tests de connaissances ou même la notation. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, quelques définitions de l'évaluation formative. L'évaluation formative, donc une évaluation qui est mise en œuvre fréquemment et planifiée par l'enseignant, qui fournit un feedback qui conduit les élèves, et pas seulement l'enseignant, c'est très important aussi, qui conduit les élèves à reconnaître les écarts dans les apprentissages et à les réduire, mais aussi à s'intéresser à l'après, c'est-à-dire qu'on est dans une projection dans le devenir de l'apprentissage de l'élève et on n'est pas toujours dans le statement, c'est-à-dire l'état des lieux sur les acquis des élèves. Donc c'est important à comprendre, cette notion d'après, et puis le feedback qui est répété à de nombreuses reprises pour montrer l'importance que ça a, ce feedback, dans les conceptions de l'évaluation formative qui sont développées par un certain nombre de chercheurs dont j'ai noté ici les références. Et puis à côté de ça, on a l'évaluation sommative qui synthétise les apprentissages, mais qui, elle, contrairement à l'évaluation formative, s'intéresse aux réussites antérieures, mais qui ne fait qu'ajouter des procédures et des tests au travail existant déjà avec les élèves, et qui s'appuie fortement chez les enseignants sur le recours à la notation. Donc c'est pas inutile de synthétiser les résultats des élèves pour pouvoir ne serait-ce que les communiquer, rendre compte à l'élève lui-même d'abord, rendre compte aux familles, rendre compte éventuellement à son inspecteur. Quoique en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'inspecteur. Mais je veux dire, c'est important, mais ça va avec l'évaluation formative. Donc si on essaye d'intégrer ça, mais là, je pense que vous n'allez pas voir le tableau parce que vous êtes trop distant. On peut, je vous enverrai le PowerPoint. On peut intégrer évaluation formative et évaluation sommative dans un même processus d'évaluation, avec une distinction qui est faite selon que l'enseignant se pose la question quelles sont les prochaines étapes de l'apprentissage, ou qu'il se pose la question qu'est-ce qui a été réussi jusqu'à ce jour. Donc à ce moment-là, on va avoir des informations collectées différemment, soit qu'elles servent ces informations à guider les prochaines étapes de l'apprentissage, ou à guider le progrès des élèves selon une planification, ou tout simplement à noter la réussite des élèves, parce qu'il y a évidemment des attentes sociales là-dessus aussi, et les enseignants néo-zélandais n'y échappent pas. Mais on voit bien qu'en même temps, le retour d'information est important, et que l'évaluation est partagée entre l'élève et l'enseignant. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'enseignant qui fait l'évaluation, l'élève aussi est capable de s'évaluer ou d'évaluer d'autres élèves, et on va revenir là-dessus, et il est partie prenante du dispositif d'évaluation. Alors à partir de là, on peut avoir différentes approches de l'évaluation selon qu'on parle de notation, qu'on parle de test individuel ou collectif de l'élève, qu'on parle de diagnostic individuel ou collectif des élèves, et puis qu'on parle d'évaluation pour les apprentissages, qui est une des composantes de l'évaluation, mais qui s'intègre dans un système d'évaluation complet. Alors c'est évidemment cette dimension de l'évaluation pour les apprentissages que je vais développer maintenant, parce que elle a été très importante, cette dimension de l'évaluation pour les apprentissages, et elle est développée depuis maintenant une dizaine d'années. Elle est partie d'une expérience anglaise qui est devenue une référence internationale. Bon, je trouve que ça vaut un peu le coup que je passe un peu de temps pour vous expliquer pourquoi on en est arrivé à cette notion d'assessment for learning ou d'évaluation pour les apprentissages. Alors, les Anglais ont depuis, Margaret Thatcher, on peut dire, mis en place des tests d'évaluation des élèves à différents niveaux du système éducatif. Ça marche par cycle. Il y a différents cycles, K-Stage 1, K-Stage 2, K-Stage 3. Et finalement, ces évaluations, ces tests sont fortement articulés au curriculum, c'est-à-dire au contenu des programmes scolaires. Et donc, ce que sont aperçus chercheurs qui travaillaient justement sur ce développement des tests à différents niveaux de scolarité en Angleterre, c'est que le contenu des programmes scolaires influençait l'évaluation des élèves. C'est-à-dire qu'en fonction des contenus de programme, d'une discipline à l'autre, eh bien, les enseignants ne pratiquaient pas les mêmes évaluations, même s'ils avaient le même type de test à leur disposition. Ils ont montré aussi, ces chercheurs, que les enseignants accordaient plus d'importance à d'autres formes d'évaluation qu'aux tests. Les tests étant définis par le département de l'éducation anglais. Et ils accordaient plus d'importance à d'autres formes d'évaluation, notamment ils s'en remettaient plus fortement à leur jugement sur les performances des élèves qu'aux tests standardisés qui leur étaient proposés. Et puis ils se sont aperçus que les scores de réussite des élèves au test couvraient une étendue de compétences telle que les enseignants ne parvenaient pas à les évaluer. Donc il y avait une gamme trop étendue et qu'il était difficile pour les enseignants d'établir des comparaisons entre les élèves. Et puis surtout, ce qu'ils sont aperçus, c'est que, et on l'avait déjà remarqué dans les années 60, que les enseignants n'avaient pas toujours le temps d'utiliser l'information qui était mise à leur disposition. Non pas qu'ils s'investissent pas en dehors de la classe, parce que les enseignants anglais ont des activités pédagogiques ou administratives en dehors de la classe, et le temps de travail, c'est pas uniquement un temps en classe devant élèves, mais tout simplement, ils n'avaient pas, du fait de ces charges administratives, ils n'avaient pas le temps de saisir l'information, et ils étaient noyés finalement sous le nombre de données. On peut dire d'une certaine manière que l'information, trop d'informations tuait l'information. Alors par rapport à ça, il y a des réflexions qui ont été développées en Angleterre sur comment aller vers une diversification des formes d'évaluation. Alors ça s'est fait dans un contexte aussi de critique forte des enseignants, des politiques de testing qui étaient développées en Angleterre, et puis autour de questions qui étaient débattues au sein de la communauté de recherche, c'est-à-dire on se posait la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'augmentation des taux de réussite des élèves au test? Est-ce que les élèves apprennent mieux? Ou est-ce que ce sont les enseignants qui trichent au test pour faire en sorte que montrer que leurs élèves apprennent mieux? Est-ce que les tests et les examens deviennent plus faciles? Et est-ce que cela ne contribue pas à réduire l'étendue des connaissances enseignées et acquises par les élèves? Et puis il y avait beaucoup de débats autour de la question du teaching to the test, c'est-à-dire qu'on considérait que le fait que mettre en place des tests, les enseignants avaient tendance à ne plus enseigner qu'en vue des tests et à réduire l'éventail des apprentissages, et ça avait des effets évidemment pervers, puisqu'ils développaient, renforçaient leur évaluation sommative, mais du coup ils ne développaient plus d'autres formes d'évaluation à côté. Donc, à la demande du ministère de l'Éducation, du département de l'Éducation britannique, des chercheurs ont commencé à réfléchir au sein, et des experts au sein d'un Assessment Reform Group en 1997, et notamment à l'initiative de deux professeurs, Paul Black et Dylan William, de King's College, a été conduit une revue de la littérature internationale de recherche sur l'évaluation formative. Et ce qu'ont montré ces deux chercheurs, ce que leur synthèse a montré, synthèse qui a été publiée dans ce livre Inside the Black Box, qui a été vendu par la suite à 40 000 exemplaires. Donc c'est pas un vrai succès de librairie pour un ouvrage un peu difficile, enfin qui synthétise la littérature de recherche en une vingtaine de pages. Et leur synthèse a montré que l'évaluation pour les apprentissages, assessment for learning, pouvait aussi bien augmenter la réussite des élèves que les tests traditionnels. Donc ça a été évidemment une secousse forte dans le monde académique et auprès des décideurs politiques. Et donc, fort de cette revue de la littérature de recherche, puisque ce sont deux chercheurs éminemment sérieux, eh bien, ils ont décidé de mettre en œuvre un programme de développement professionnel des enseignants, le programme KMOFAP, je donnerai sa traduction tout à l'heure, avec l'idée que il suffisait pas de mettre l'effort sur la formation des enseignants, en proclamant des recettes pour qu'ils changent leur comportement en matière d'évaluation, mais qu'il fallait les associer à une transformation de leurs pratiques en termes d'évaluation. Donc le programme a mobilisé 6 écoles composées d'élèves âgés de 11 à 18 ans qui ont été choisies dans 3 districts et qui ont impliqué 48 enseignants dans une réflexion et un suivi par des chercheurs et des formateurs. Alors, un petit mot sur le développement professionnel des enseignants, parce que le développement professionnel des enseignants, c'est une conception de la formation qui se développe dans un nombre de pays anglo-saxons et maintenant à l'échelle internationale, et qui n'a rien à voir avec la conception qu'on peut avoir de la formation. Bah, tout simplement, c'est parti du constat aussi là de la littérature de recherche que les grandes réunions comme aujourd'hui finalement étaient inefficaces pour changer les pratiques pédagogiques. Donc il fallait mieux proposer des travaux en petits groupes sur un objet précis. Est-ce qu'elle a donné lieu par exemple au Japon à des leçons pédagogiques où les enseignants japonais font une enquête, alors font face à des difficultés, à des problèmes avec leurs élèves et leurs classes, mènent l'enquête avec l'aide de chercheurs sur les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs élèves, et quand ils ont trouvé des solutions, ils pensent avoir trouvé des solutions ou des changements de pratiques, ils les exposent dans des conférences pédagogiques auxquelles siègent leurs collègues. Et ces conférences pédagogiques et les résultats de recherche qui sont tirés au Japon représentent 50% de la littérature de recherche qui est lue par les enseignants. Donc c'est pas un phénomène mineur. Donc l'idée quand même, c'est de développer des travaux et une formation, de mettre les enseignants en position d'être enquêteurs sur leurs propres pratiques, et puis de développer les formations sur site de façon à faire émerger des besoins de formation au niveau des établissements qui correspondent véritablement aux préoccupations des enseignants en matière de pratiques pédagogiques, avec l'idée que cette formation, c'est une formation, non seulement une formation continue, mais c'est une formation tout au long de la vie, et que cette formation, maintenant, elle rentre complètement dans l'évaluation même des enseignants et dans leur évolution carrière. Alors voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc l'idée, évidemment, était de mettre en place ce programme de développement professionnel des enseignants, donc de suivre ces enseignants volontaires sur une durée de 2 années. Et ce programme a eu un tel succès en termes de publication des résultats de la recherche qu'il a été mis en œuvre dans une politique, dans une stratégie nationale pour la numératie, la littératie. J'ai mis là les compétences de base ou le socle commun, mais bon, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des harmoniques assez proches, avec l'idée que l'évaluation pour les apprentissages pouvait être un ressort important pour améliorer non seulement l'enseignement, mais améliorer les résultats des élèves dans les compétences de base du lire, écrire, compter. Et ça a été adopté notamment pour les élèves âgés de 11 à 14 ans, donc ce qui équivaut à nos élèves de collège. Alors, quels ont été les constats faits par ces chercheurs? Eh bien, ils ont montré d'abord que les élèves lisaient rarement les commentaires des enseignants. C'est-à-dire que les élèves, d'ailleurs comme les enseignants, préfèrent comparer les notes des élèves entre eux et éventuellement à partir d'une moyenne de 10, constat qu'ils ont fait. Ils sont aperçus aussi que les enseignants accordaient peu de temps dans la classe pour que les élèves lisent leurs commentaires. Et ils se sont aperçus aussi que, parce que les élèves étaient interrogés dans le dispositif, que les élèves y consacraient peu de temps eux-mêmes à la maison. Ils se sont aperçus que les commentaires des enseignants, comme l'illustre cette figure, étaient finalement assez courts et peu spécifiés. Comme par exemple, orthographe, détail, point d'interrogation, faux, bien, à revoir. Mais du coup, que ces commentaires n'aidaient pas vraiment les élèves à améliorer leur apprentissage, ne leur montraient pas véritablement les voies pour améliorer leur apprentissage. Et puis, peut-être pas très lisible, hein. Oui, j'ai pris un exemple, mais bon, j'ai trouvé que ça sur Internet. Et ils se sont aperçus aussi que les mêmes commentaires réapparaissaient souvent dans les travaux des élèves. Alors, on pose la question, si finalement les commentaires apparaissent souvent dans les travaux des élèves, à quoi servent ces commentaires? Donc là, ça posait évidemment problème. Deuxième constat, ils se sont aperçus que l'évaluation avait un effet décisif sur la motivation et l'estime de soi des élèves. Ça, on le comprend assez bien par rapport à l'exemple que j'ai donné de la notation en introduction avec cette professeure des écoles. Donc les enseignants avaient tendance à évaluer la quantité de travail et non la qualité du travail scolaire. Par exemple, dans une démonstration mathématique, ils vont s'intéresser au résultat final, mais ils vont pas regarder les différentes étapes du développement et pas tenir compte de l'effort de raisonnement qu'a pu faire l'élève. Ils le retrouvaient dans les copies de mathématiques. Beaucoup d'importance était donnée à la notation. L'accent était mis sur la comparaison entre les élèves et les enseignants, entre les élèves et le classement des élèves, et que le retour d'information, c'est-à-dire la prise d'information de l'enseignant sur l'activité de la classe, eh bien, servait plus à la discipline qu'à une fonction d'apprentissage. C'est-à-dire que, et ça, c'est des travaux de sociologues qui l'ont bien montré, de sociologues interactionnistes anglo-saxons, quand on pose des questions aux élèves, ou quand on interroge les élèves, d'abord on leur demande de lever la main, ce qui fait que ça permet de contrôler les interventions, on est sûr qu'il n'y a pas d'intervention intempestive, mais en même temps, on est sûr que des élèves ne lèvent jamais la main. Et donc, généralement, les élèves qui lèvent jamais la main, c'est les élèves qui ont le plus de difficultés d'apprentissage. Donc, on demande aux élèves de lever la main, et puis on distribue les tours de parole, et la distribution des tours de parole, c'est un mécanisme disciplinaire essentiel. Si vous avez été enseignant, vous savez le rôle que ça peut jouer dans l'animation et dans le contrôle d'une classe. Eh bien, cette fonction de questionnement, d'interrogation des élèves, elle était essentiellement utilisée à des fins disciplinaires, avec des remarques souvent assez désobligeantes aux élèves quand ils ne trouvent pas la bonne question, enfin qu'ils répondent pas à la bonne question suffisamment vite, qu'ils trouvent pas suffisamment vite la bonne réponse. Donc l'agacement de l'enseignant, non c'est pas ça, suivant, etc. Surtout qu'il faut évidemment boucler le programme, il faut avancer, et puis il y a 55 minutes, donc il a sonnerie, etc. Je vais pas avoir le temps de boucler ma séquence, qu'est-ce que va en penser mon inspecteur, etc., etc. Bon voilà. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que l'évaluation pour les apprentissages et comment ce concept a pu être développé? L'évaluation pour les apprentissages, c'est pour ces chercheurs le processus qui consiste à chercher et à interpréter les informations dans la classe, Donc on voit bien que l'idée d'information, de retour d'information est très important, afin d'identifier où en sont les élèves dans leurs apprentissages, vers où ils doivent aller et comment ils peuvent le faire de la manière possible. Où, vers, comment, et c'est les questions avec lesquelles ils ont travaillé, ces chercheurs, avec les enseignants. Donc si on développe un petit peu ça, que signifie l'implication des élèves dans leur apprentissage ? L'idée, c'est de former les élèves à comprendre leur propre travail. C'est-à-dire leur faire acquérir des compétences, non pas celles du socle commun, mais leur faire acquérir les compétences pour qu'ils puissent repérer leurs erreurs et puissent les corriger. Et on a vu l'importance, et Martine en a parlé ce matin, l'importance du diagnostic de l'erreur et du travail sur les erreurs. Il s'agit aussi d'utiliser les réponses des autres élèves. C'est-à-dire que ces réponses des autres élèves servent de référence et participent à la démarche cognitive, individuelle ou collective aussi dans la classe. Donc, elles participent du processus d'apprentissage lui-même. Ensuite, utiliser l'auto-évaluation des élèves et l'évaluation par les pairs dans la classe, c'est-à-dire que l'enseignant n'est pas le seul à évaluer, mais qui peut déléguer une partie des tâches d'évaluation aux élèves eux-mêmes. Alors, ça a été le plus difficile pour les enseignants anglais, même pour eux, de se convaincre qu'il fallait qu'ils se délaissent de leurs prérogatives pour les transférer finalement aux élèves et partager un diagnostic avec eux sur les apprentissages. Mais ça s'est fait progressivement. J'ai dit, ça s'est fait en 2 ans, donc ça a été une étape progressive. On n'a pas mis les enseignants comme ça devant toutes ces révolutions en matière d'évaluation. Mettre en œuvre des questions orales efficaces et ouvertes, parce que les chercheurs s'étaient aperçus généralement que le questionnement il était assez mauvais et qu'on prenait pas le temps de faire en sorte que les élèves puissent expliciter leur démarche cognitive. Et donc ça nuisait véritablement à leur apprentissage. Étendre le temps d'attente, parce que dans les recherches qu'ils avaient conduites, ils s'étaient aperçus que entre la question posée par l'enseignant et la réponse de l'élève s'écoulait de moins d'une seconde. Alors ils se sont dit, on va peut-être travailler, on va essayer de passer à 2, 3, 4 secondes, et peut-être que ça va avoir des effets, notamment sur l'implication des élèves et sur leur réflexion. Donc étendre le temps d'attente, et puis dans les devoirs, parce qu'ils font aussi des devoirs aux élèves, proposer aux élèves de réfléchir à leur réponse, mais identifier systématiquement 3 succès et une voie d'amélioration sur les copies des élèves. Plutôt que de dire systématiquement, non, c'est pas ça, mais plutôt 3 succès et une voie d'amélioration, c'est-à-dire indiquer à l'élève où il peut trouver la ressource pour corriger ses erreurs et aller plus loin dans son apprentissage. Alors, comme les anglo-saxons sont des pragmatiques, et ils sont très attachés à l'augmentation de la performance des élèves, et ils sont attendus là-dessus, on a demandé, évidemment, on a évalué les résultats obtenus par ce programme de développement professionnel des enseignants sur l'évaluation. Programme King's Medway Oxfordshire, c'est les 3 districts qui ont participé à cette expérimentation. Alors, on s'est aperçu que, d'abord, les élèves en difficulté étaient beaucoup plus engagés dans les activités pédagogiques, notamment les élèves les plus fragiles, qui retrouvaient l'envie d'apprendre, si on peut dire ça comme ça. Donc, ils se sont aperçus qu'il y avait une plus forte motivation, une plus forte confiance des élèves envers l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant n'était plus là en train de piéger les élèves, mais il était là pour les aider à résoudre des difficultés, un certain nombre d'obstacles auxquels ils faisaient face. Donc, on a vu des transformations importantes dans le comportement et la coopération en classe, notamment un collectif véritablement qui s'est développé. Et puis, avec le développement de l'évaluation par les pairs, il y a une forme de solidarité aussi qui était apparue entre les élèves. Une proportion des élèves à mieux tenir compte de leurs atouts et leurs faiblesses et être capable de se projeter dans le temps pour essayer de voir comment ils pouvaient se corriger pour progresser dans leurs apprentissages. Et puis surtout, ce qui intéressait le plus les décideurs politiques, une amélioration de la réussite des élèves au test. C'est-à-dire que par rapport à des groupes d'élèves qui n'avaient pas bénéficier de cette évaluation pour les apprentissages, de ce dispositif, on s'est aperçu que ce dispositif permettait de mieux augmenter la réussite des élèves au test standardisé que des élèves qui n'avaient pas été soumis à ce dispositif. Du coup, c'est devenu un vrai succès politique, et ça a été intégré à la politique anglaise, mais c'est devenu en même temps une référence internationale, puisque cette expérimentation a été valorisée dans les cercles internationaux d'experts et de chercheurs qui croient souvent d'ailleurs des décideurs politiques au sein de l'OCDE ou ailleurs. Alors maintenant, et je terminerai mon exposé par cela, en vous montrant comment cette conception de l'évaluation pour les apprentissages a permis en Nouvelle-Zélande de diversifier les modes d'évaluation des élèves, mais surtout d'être intégré à une stratégie nationale pour l'évaluation. Et je trouve là qu'il y a des éléments intéressants à réfléchir par rapport au contexte français où on se pose la question, mais quelle articulation entre les évaluations des enseignants, les évaluations nationales, PISA ou autres. Alors, les grands principes du programme scolaire néo-zélandais, parce qu'il y a des grands principes aussi, c'est, on le voit bien, alors je lis le PowerPoint pour ceux qui ne voient pas au fond, l'engagement au service de la communauté, la protection des droits de la minorité maori, la diversité culturelle et l'intégration sociale, un haut degré d'attente et d'exigence, une cohérence, une orientation vers le futur, et puis apprendre à apprendre. Alors j'insisterai plus sur ces dimensions, engagement au service de la communauté, protection des droits de la minorité maori, et la diversité culturelle, parce que ça vient évidemment de l'histoire néo-zélandaise. Il faut bien comprendre que les colons néo-zélandais, lorsqu'ils se sont installés en Nouvelle-Zélande, ont quand même massacré une bonne partie des maoris, et donc s'est développé un ressentiment fort de la communauté maori, et puis une forme de discrimination forte vis-à-vis de cette communauté qui a duré pendant des années. Donc ils se sont défendus au nom de l'égalité des droits, ils ont revendiqué une place plus importante, une reconnaissance plus importante dans le système éducatif néo-zélandais, notamment la place, une place plus grande pour leur culture, pour leur langage, et donc progressivement, le système éducatif néo-zélandais s'est adapté, et aujourd'hui, vous avez, on trouve ça, mais quand on se promène en ville, vous avez souvent des documents qui sont à la fois en langue néo-zélandaise, en anglais, et puis quoi qu'ils ont un accent, alors c'est pour pas dire que ce soit vraiment des anglais, parce qu'on a du mal à les comprendre, et puis en maori. Et ce principe de la communauté est évidemment un principe très fort, et on voit bien, là j'ai pris une photo du haka, qui n'est pas uniquement réservé aux joueurs de rugby lors des rencontres de Coupe du Monde avec les Français, mais qui est une forme d'accueil systématique des hôtes et des étrangers dans les écoles communautaires maoris. Et systématiquement, on a le droit à cet haka lorsqu'on visite une école. Donc c'est cette dimension de la protection des droits de la minorité et de l'engagement au service d'une communauté et le respect de la diversité culturelle sont vraiment des principes très forts. On pourrait dire que pour le gouvernement néo-zélandais, ce sont les sept piliers, hein, si on peut dire. Alors il y a des compétences clés, hein, basic skills ou socle commun dans le programme scolaire, mais c'est pas tout à fait notre socle commun à nous. C'est-à-dire que ces compétences clés d'abord sont orientées et sont perçues comme des capacités pour vivre et apprendre tout au long de la vie. Hein, donc l'idée du lifelong learning, de la formation tout au long de la vie, a pénétré le système éducatif anglais. C'est un horizon commun à tous les élèves néo-zélandais. Et on voit qu'ils s'articulent autour de penser, utiliser la langue, les symboles et les textes, mais aussi se prendre en charge soi-même, développer la relation aux autres, participer et contribuer à la communauté. Hein, donc c'est une dimension forte encore d'inscription de l'école dans une organisation communautaire et d'une conception, alors là très anglo-saxonne, de l'autonomie des individus, et de leur prise de responsabilité individuelle dans leur développement en termes d'apprentissage et en termes éducatifs. Hein, donc c'est l'idée quand même que c'est d'abord l'individu qui sait ce qu'il veut et que le système doit s'adapter à cette demande individuelle. Et là, vous avez une photo qui illustre le salut maori, Hein, c'est-à-dire que on frotte son nez contre celui qui vous invite. Là, en l'occurrence, on a une blanche et puis un maori. Donc, et moi, j'ai eu moi-même l'occasion de frotter mon nez comme ça contre les représentants des élèves de l'école que je visitais. Et c'est un rite très très important et auquel ils sont fortement attachés. Alors, ils réfléchissent évidemment au domaine d'apprentissage des programmes scolaires. Et là, on retrouve plutôt ce que nous, on appelle évidemment les compétences, le socle commun, c'est-à-dire l'anglais, les lettres et arts, apprentissage des langues étrangères, les mathématiques et les statistiques, les sciences, la technologie, mais ce qui me fait plaisir aussi, les sciences sociales, parce qu'elles n'ont pas tellement de place dans le socle de compétences et dans ces programmations curriculaires du ministère de l'Éducation nationale, alors que même Rocard, par exemple, en sortant de la commission qu'il avait animée, a dit que c'est dommage que se développe pas une culture économique de base parmi nos, et pourquoi pas sociologique, parmi nos élèves. Et vous voyez la représentation en même temps, tout ça est intégré dans une représentation donc avec des principes, des valeurs, et on voit le coquillage néo-zélandais. Donc il y a vraiment cette dimension de la symbolique, la zone pacifique est fortement présente aussi dans leur document officiel, puisque c'est tiré de leur document officiel. Alors là, tiré aussi d'un document officiel, c'est la conception qu'on a de la place de l'enseignant qui évalue. C'est-à-dire qu'on considère que l'enseignant est un enquêteur. Et c'est écrit texto dans les programmes scolaires. C'est-à-dire qu'il doit se poser la question, quelles stratégies ont le plus chance d'aider les élèves à apprendre dans le processus d'enseignement et apprentissage, et il doit mener l'enquête. Il doit mener l'enquête en se posant la question, quels ont été les résultats obtenus par mon enseignement, quelles sont les prochaines étapes que je me fixe, et comment je dois centrer aussi mon enquête, et comment je dois passer plus de temps sur tel ou tel aspect de l'apprentissage qui fait problème à mes élèves, si c'est un collectif, ou à tel élève, s'il s'agit d'un individu. Donc cette dimension de l'enquête et de la prise d'informations permanente, hein, cette dimension importante du feedback, du retour d'informations par rapport à l'environnement dans lequel l'enseignant développe son enseignement et organise les activités d'apprentissage des élèves, est quelque chose de fondamental puisqu'il est inscrit dans les programmes officiels. Alors tout ça s'intègre dans une stratégie nationale, comme je l'ai dit, et je vous ai mis à droite encore un des extraits, un schéma qui est présenté aux enseignants. C'est bien l'idée de partager un système d'information qui va de l'élève et de l'enseignant jusqu'au ministre de l'Éducation, au ministère de l'Éducation, avec l'idée que cette information sur les apprentissages doit être partagée avec les parents, les familles, la communauté, mais aussi avec l'équipe éducative, avec les boards, c'est-à-dire ces gouvernements locaux de l'éducation qui jouent un rôle important dans un système décentralisé. Et donc, l'idée quand même, c'est que l'évaluation est d'abord une information qui va aider à améliorer les apprentissages. Et pour cela, il faut développer des outils qui permettent de prendre cette information là où elle est, développer des outils d'évaluation pour permettre une progression des élèves dans les apprentissages et dans les compétences de base, c'est-à-dire dans la littératie et la numératie. Donc c'est important de comprendre que là, véritablement, on a pensé cette intégration des systèmes d'information et des différents outils d'évaluation. Alors là, on retrouve présenter ces outils d'évaluation du système éducatif néo-zélandais qui sont articulés d'une part au programme scolaire néo-zélandais, alors il parle de curriculum, hein, les anglo-saxons, qui est découpé en différents niveaux qui correspondent à des étapes dans les apprentissages que doivent atteindre les élèves, niveau 1 à niveau 5, avec différents niveaux de scolarité, year 1 jusqu'à year 10. Donc là, vous rajoutez 5 ans, ça vous donne à peu près l'âge des élèves. Donc on a ici représenté l'enseignement primaire et le collège. Alors ce qui est intéressant dans ces outils d'évaluation, c'est qu'ils sont fortement diversifiés. À l'âge de 6 ans, on a un test de diagnostic qui permet d'évaluer les compétences des élèves et de voir quelles sont leurs principales difficultés d'apprentissage. Mais ensuite, tout au long de la scolarité, on va avoir une diversification des modèles d'évaluation. Donc on va avoir une banque de ressources sur l'évaluation, donc ça, elle existe déjà en France, hein, c'est la banque outil du ministère de l'Éducation nationale, sauf que cette banque outil ou cette banque de ressources, elle est beaucoup plus développée en Nouvelle-Zélande, et elle est fortement articulée, d'une part, à un souci d'intégrer l'évaluation au curriculum, hein, c'est-à-dire au programme scolaire, et que cette évaluation s'intègre dans une planification pédagogique et dans une progression des apprentissages des élèves. Et puis, vous avez à côté de ça, je l'ai fait un peu dans le désordre par rapport au PowerPoint, le programme national de pilotage de l'éducation, qui est une forme d'évaluation nationale, comme on les connaît en France, mais des évaluations nationales qui se font sur des échantillons d'élèves, ça représente à peu près 3% de l'effectif des élèves, et des évaluations qui sont pas uniquement des tests des élèves, des tests de connaissances. Il y a une dimension test des connaissances, mais c'est des groupes d'enseignants qui se distribuent dans différents établissements et qui vont évaluer des élèves individuellement ou en groupe, en les soumettant notamment à des interviews, à des enregistrements vidéo. Il y a une diversification des supports de ces évaluations nationales. Et ensuite, il y a un échantillon national qui est construit et c'est de manière cyclique. Donc, on fait tourner sur les différentes disciplines, les mathématiques, l'anglais, etc. Et ça permet d'avoir un échantillon représentatif de ce que savent faire les élèves et des compétences qu'ils ont acquises au cours des différentes années. Mais c'est absolument pas un outil de prescription. D'ailleurs, les évaluations nationales en France sont pas du tout non plus un outil de prescription. Alors, à côté de ça, on a, et j'insisterai là-dessus, des choses assez différentes par rapport à la France. On a notamment des modèles d'évaluation. Un modèle d'évaluation, c'est-à-dire qu'ils sont des exemples d'évaluation que les enseignants peuvent trouver sur Internet et qui montrent comment on peut mettre en place des situations d'évaluation dans différentes situations d'apprentissage. Et donc, ça invite les enseignants à aller consulter ces modèles qui sont écrits à la fois en anglais et en maori, pour voir justement quelle stratégie d'évaluation ils peuvent mettre en place dans leur classe. Et puis, on a des outils d'évaluation, un logiciel, ASTTL, pour l'enseignement et l'apprentissage, qui sert à évaluer les compétences aussi des élèves dans les différents domaines de base, numératie et littératie, mais qui sont un peu à l'image du logiciel JAD qu'on trouve, hein, vous savez, articulé aux évaluations nationales en France, qui a remplacé le logiciel Casimir. Je ne sais pas dire pourquoi il l'avait appelé Casimir à l'origine, mais donc un logiciel qui permet de traiter les données sur les élèves, mais vous verrez, il y a une différence importante dans la conception et dans l'usage de ce logiciel par rapport à l'usage qui peut en être fait en France. Donc c'est ces deux dimensions-là que je vais développer maintenant, modèle d'évaluation et puis ce logiciel d'évaluation qui est utilisé par les enseignants néo-zélandais, sachant que ça présente des écarts importants par rapport à la situation française et que ça mérite réflexion. Alors l'objectif du logiciel, hein, ASTTL, Assessment Tools for Teaching and Learning, c'est de fournir une analyse de l'information évaluée. Information évaluée, j'aime bien le terme parce que j'ai fait une traduction littérale, mais c'est bien l'idée quand même qu'on articule toujours information et évaluation. Et cette information, elle peut être utilisée pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Elle ne se substitue pas à d'autres outils d'évaluation, elle est complémentaire des autres outils d'évaluation qui sont mis à disposition par le ministère, qui sont mis à disposition des enseignants pour qu'ils puissent produire des jugements valides et fiables sur les progrès des élèves. Alors, ce logiciel, là, vous avez la jaquette du logiciel. Donc, il vise les domaines de compétences des élèves dans la lecture, l'écriture et les mathématiques, avec différents niveaux du programme scolaire, donc les niveaux 2 à 5, hein, sachant qu'il y a une progression dans les apprentissages, il y a une progression dans le curriculum, c'est-à-dire qu'on considère que l'élève doit atteindre d'abord le niveau 2 dans le curriculum avant d'atteindre le niveau 3 ou le niveau 4 ou le niveau 5, mais on tient compte aussi du rythme propre du développement de l'élève. Il ne s'agit pas de lui imposer comme ça un changement d'étape du jour au lendemain. Et ce logiciel s'applique aux années 5 à 10, bien que ça soit élargi maintenant, parce que là c'est une version de 2003, mais essentiellement aux élèves du primaire et du collège, si on essaie de transposer ça dans le cadre français. Alors, cet outil donc vise à diagnostiquer comment les élèves réussissent, mais aussi, et c'est là la nouveauté par rapport à un outil d'évaluation comme JAD, donner aux élèves un feedback précis et aussi aider les élèves à préciser leurs objectifs d'apprentissage et l'utiliser aussi au niveau de l'établissement, puisque l'information peut être agrégée et partagée ensuite entre les enseignants et avec l'équipe de direction pour définir véritablement ce qu'ils appellent une planification stratégique, mais qui est finalement un pilotage pédagogique de l'établissement scolaire. Alors à partir de là, on peut avoir l'analyse des résultats des élèves par niveau de programme. On a un profil ici de la classe qui est présenté dans le domaine de la lecture. Donc il y a un test en lecture qui a été fait. Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que chaque enseignant peut définir son test en fonction des besoins de la classe et des besoins des élèves. Hein, donc il y a une certaine liberté, une certaine latitude pour l'enseignant de paramétrer le logiciel et de rentrer les données d'évaluation qui l'intéressent. Et puis pour chaque niveau de programme scolaire, on a trois catégories de compétences qui sont définies, élémentaires, compétences et avancées. Alors c'est pas là qu'il est véritablement original, le logiciel, mais c'est qu'ensuite il permet d'aller vers une décomposition forte de ses compétences par élève ou par groupe, en essayant de voir où en sont les élèves dans différents domaines des programmes scolaires et quel est le niveau de compétences qu'ils ont atteint. Donc là, par exemple, on voit que Sylvia apparaît assez isolée par rapport à la situation d'un autre groupe de classe qui est plus au niveau 3 du curriculum, alors que Sylvia est restée au niveau 2, même si elle est proficiency, c'est-à-dire si elle a développé des compétences de haut niveau au niveau 2, alors que certains élèves qui sont au niveau 3 sont à un niveau basics, hein, donc compétences, maîtrisent les compétences de base, mais ont moins de niveau de compétences que les élèves qui sont au niveau 3P, c'est-à-dire qui ont développé les compétences plus approfondies. Parce que l'idée, quand même, est d'aller vers un approfondissement de la maîtrise des compétences des élèves et pas uniquement des compétences de premier niveau. Alors, on peut avoir, après, un diagnostic qui se fait élève par élève et qui permet de définir les domaines spécifiques de leurs forces et de leurs faiblesses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur le graphique, mais là, on a vraiment écrit les forces, ce qui a été réalisé, ce qui doit être réalisé et les écarts de réussite de l'élève par rapport au groupe classe, avec des espèces de petits indicateurs de pilotage, mais qui sont finalement des outils assez ergonomiques et qui sont bien appréciés des enseignants parce qu'ils correspondent bien aux questions qui se posent dans la classe. On ne pourrait pas dire la même chose du logiciel JAD, où j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc l'idée, c'est que pas uniquement faire un diagnostic sur ce qu'a fait l'élève, mais aussi de commencer à réfléchir aux prochaines étapes de l'apprentissage, ce qui permet aux enseignants de planifier leur progression, non seulement pour la classe, mais pour chaque élève. Donc on a quand même des analyses collectives, puisque ce logiciel permet de développer des trajectoires d'apprentissage par groupe, hein, c'est bien l'idée de trajectoire, mais là c'est pas l'idée du tout d'une trajectoire de l'orientation de l'élève, c'est une trajectoire dans les progrès que va faire l'élève tout au long de son développement individuel et tout au long de son apprentissage. Et donc là est repris aussi les écarts, ce qui est réalisé, ce qui doit être réalisé, les forces et les faiblesses dans différentes compétences qui sont décomposées. Martine Raymond ou même Pierre Vrignot, on dirait sans doute plus que moi, parce que je ne suis pas vraiment du tout compétent dans le traitement de tous ces items. Alors à partir de là, les enseignants qui repèrent des difficultés dans les apprentissages de leurs élèves peuvent accéder à des banques de ressources, pas celles dont j'ai parlé, mais des banques de ressources qui leur montrent sur certains types d'exercices quel type d'exercices qu'ils peuvent développer, quel type d'évaluation ils peuvent mettre en œuvre, et tout ça est directement connecté sur Internet, et donc il est facilement accessible par un lien hypertexte. Donc voilà pour le logiciel. On vient maintenant au modèle d'évaluation pour les programmes scolaires néo-zélandais, c'est-à-dire l'idée d'un couplage fort de l'évaluation au curriculum, au programme scolaire. Ces modèles sont basés sur un exemple authentique d'un travail d'élève, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été capitalisés par le ministère de l'Éducation néo-zélandais, et ils visent à montrer l'apprentissage attendu de l'élève, un certain degré de réussite, et ce qu'on juge être la qualité d'un bon travail pour l'élève. Donc l'objectif, c'est de définir, d'illustrer les caractéristiques clés de l'apprentissage et de la réussite à une étape particulière du développement de l'élève, aider les élèves, mais aussi, évidemment les enseignants, mais aussi les parents d'élèves à identifier les niveaux de réussite et les prochaines étapes de l'apprentissage, et puis guider les enseignants dans l'interprétation des niveaux des programmes scolaires pour qu'ils puissent émettre des jugements les plus objectifs possibles sur le travail de l'élève. Donc la structure d'un modèle d'évaluation, donc ils ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques. Donc on a ce tableau-là. Alors si on regarde, on a les échantillons du travail d'un élève qui sont reliés, qui sont annotés pour montrer les principales composantes de l'apprentissage. Hein. Et puis ils sont accompagnés, ces modèles, de conversations entre l'enseignant et les élèves, ou entre les élèves eux-mêmes, qui illustrent comment l'apprentissage peut être amélioré en se centrant sur le questionnement de l'élève et sur ce fameux feedback, ce retour d'information dont j'ai parlé. Donc systématiquement, on a des situations réelles de classe hein, qui sont présentées aux enseignants. Et puis, chaque modèle d'évaluation comprend différentes sections. Donc, les exemples à noter du travail d'un élève, ce que j'ai montré, les liens avec le curriculum, c'est-à-dire la liste des objectifs de réussite pertinents, les liens avec les programmes scolaires transversaux, si c'est justifié, avec des objectifs d'apprentissage spécifiques, avec d'autres formes d'évaluation. On détaille aussi le contexte d'apprentissage, c'est-à-dire le contexte du travail de l'élève. Et puis, on suggère les prochaines étapes pour enrichir l'apprentissage des élèves et pour guider aussi l'enseignant à mettre en œuvre une stratégie d'évaluation. Alors, il y a des indicateurs de progression qui sont définis, auxquels peut se référer l'enseignant, hein, ces fameux niveaux 1 à 5 dont je parlais, mais qui sont évidemment détaillés et qui sont aussi exemplifiés par rapport à des situations pédagogiques réelles hein, qui ont été capitalisées par les experts du ministère de l'Éducation. Alors, à quoi ça sert d'utiliser ces modèles ? Ben, ça sert, d'après les concepteurs, à faire en sorte que les élèves se posent des questions sur qu'est-ce que je dois apprendre, à quoi se ressemblera quand je l'aurai appris, à quoi correspond ma progression, comment est-ce que je dois agir, est-ce que c'est suffisant ? Et donc, on voit bien que là, l'élève est particulièrement associé à la procédure d'évaluation et qu'il se pose des questions, mais il se pose des questions en même temps que l'enseignant qui se pose lui aussi des questions. Ces modèles peuvent être utilisés pour un travail par groupe entre les enseignants, pour identifier au niveau de l'établissement les principales caractéristiques de l'apprentissage des élèves, pour promouvoir donc, des discussions et formuler des attentes curriculaires, des attentes en termes de programme et de réussite des élèves au niveau de l'établissement, parce qu'il y a évidemment une importante concertation pédagogique hein, qui ne se réduit pas à l'expression juste du conseil pédagogique, comme on le voit dans l'établissement scolaire français, mais il y a véritablement un vrai travail de coordination pédagogique. Et puis pour soutenir aussi les programmes de développement professionnel des enseignants qui doivent en permanence actualiser leurs connaissances sur le curriculum, les contenus scolaires, la pédagogie, l'évaluation et aussi sur les travaux de recherche les plus en vogue pour qu'ils doivent, dont ils doivent se nourrir pour progresser dans leur pratique pédagogique. Voilà, donc en conclusion, si on regarde PISA et si on se pose la question comme se pose l'anglo-saxon, mais là je suis un peu provocateur, what works, est-ce que ça marche ? Ben, on peut voir que la Nouvelle-Zélande est parmi les 4 premiers pays dans la performance moyenne sur l'échelle de culture scientifique, si on en juge la dernière évaluation PISA qui a intéressé notre ministre de l'Éducation nationale. Et on voit que la France est quand même loin derrière. Alors si on regarde maintenant la compréhension de l'écrit dont nous a parlé Martine Raymond ce matin, ben là on voit que la Nouvelle-Zélande est en 4e place, sous réserve évidemment de tous les problèmes que vous avez évoqués ce matin, de mesures, de comparaisons, etc. Mais enfin, on peut dire que ça influence fortement les décideurs politiques au niveau international, ça intéresse fortement l'OCDE, et tous les experts, bon, qui sont évidemment parfois décriés, s'intéressent fortement à cette expérimentation qui a été conduite en Nouvelle-Zélande, à cette politique, parce qu'elle montre au moins qu'il y a des résultats. Et si on regarde, évidemment, dans le domaine des mathématiques, là, ils sont un peu moins bons, mais enfin, ils se situent quand même largement au-dessus de la France. Alors, les États-Unis, ici, ils sont... Ah non, les États-Unis, ils sont pas bons. Et si tu prends, en plus, PISA et tu le désagrèges, les résultats des élèves américains, comme l'a commencé à le faire Martine Raymond ce matin, on s'aperçoit que lorsqu'on différencie les résultats des élèves blancs et des élèves noirs, les élèves blancs, alors, se trouvent vraiment proches des résultats de la Corée, de la Finlande ou la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Par contre, les élèves noirs se trouvent plus proches des résultats du Portugal, de l'Italie ou de la Grèce. Hein. Donc, il faut évidemment voir qu'on a affaire à des résultats agrégés. Et lorsqu'on les désagrège, en fonction des catégories socio-professionnelles ou ethniques ou des établissements scolaires, on a évidemment des résultats différents. Là, je reviens sur une critique PISA, mais tu me forces. Et les Maoris ? Alors justement, ça, j'ai pas l'information sur les Maoris. Mais bon, j'aurais peut-être pu essayer de la trouver. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché la. Mais c'est une bonne question. C'est vrai. Les Maoris là-dedans, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite? Je sais pas. Mais bon, je peux pas répondre à cette question. Alors, maintenant, au vu de tout ça, de cette expérience, enfin, cette stratégie nationale néo-zélandaise, revenons un petit peu sur la situation française et nous posons-nous la question, mais un peu comme l'a fait Bruno, quelles sont les difficultés prévisibles dans la mise en œuvre de l'évaluation en France autour du socle commun? On peut penser que les enseignants vont rencontrer des difficultés, d'abord parce que on peut pas dire qu'on leur prodigue beaucoup de conseils et qu'on produise beaucoup de ressources pour les accompagner à réfléchir à des démarches d'évaluation du socle commun. Et on peut noter une certaine faiblesse de l'accompagnement des enseignants. Bon, première chose. Alors que en Nouvelle-Zélande, ils ont été fortement accompagnés. Hein, je veux dire, ils sont pas laissés à l'abandon. L'absence aussi d'encadrement intermédiaire et de coordination pédagogique en dehors de la classe. Hein, comme je l'ai expliqué, il faut bien comprendre que les enseignants néo-zélandais passent un bon moment en dehors de la classe à échanger sur les résultats d'évaluation, à échanger sur leurs pratiques pédagogiques, à se définir des objectifs communs. Et là, véritablement, c'est pas du tout encore le cas en France, même si on a inventé le conseil pédagogique en espérant que ça allait renforcer la coordination pédagogique des établissements, des enseignants, pardon, en dehors de la classe. Les limites dans l'autonomie de l'établissement scolaire, hein, parce que même si j'étais volontairement provocateur tout à l'heure, effectivement, il y a un certain nombre de règles et de contraintes auxquelles doivent faire face les chefs d'établissement, ne serait-ce que la DGH ou l'organisation des emplois du temps, qui limite les possibilités de diversification pédagogique, même si certains établissements ont maintenant peuvent se revendiquer d'un droit à l'expérimentation qui leur donne quand même des marges de manœuvre. Je pense notamment au collège ou dans l'enseignement primaire. Et là, je pense que ça pourrait bouger pour davantage prendre en compte l'évaluation. L'absence d'un développement professionnel des enseignants, plaçant la question de l'évaluation formative au centre. La question du développement professionnel, pour l'instant, c'est véritablement un ovni. Hein. On a essayé de développer avec Jean-Louis Derouet une formation qui s'intitulait « Management des établissements scolaires et développement professionnel des enseignants à l'ESN ». Ben, ça n'a pas fait recette, on n'a pas eu de candidats. On n'avait pas suffisamment de candidats pour faire la formation. C'est pour vous dire si, évidemment, ces termes de management et développement professionnel ne font absolument pas sens, alors que ça se développe pas seulement dans les pays anglo-saxons, ça se développe dans les pays scandinaves, ça se développe en Allemagne, ça se développe dans d'autres pays, et c'est l'idée quand même d'un changement en profondeur des règles et de la nature même de la formation des enseignants. Quant à placer l'évaluation au centre de la formation des enseignants, ben, j'attends de voir, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis des difficultés en raison de la complexité aussi des outils et des dispositifs français. Et là, je reviendrai un petit peu sur les discussions de ce matin, parce que dans le rapport qu'on avait fait sur les évaluations nationales avec Bruno Garnier, on s'était quand même intéressé fortement à cet outil Casimir. Il s'appelait Casimir à l'époque, il s'appelle Jade maintenant. Et puis on avait essayé de comprendre finalement qu'est-ce que faisaient les enseignants de ce logiciel Casimir qui était mis à leur disposition et des livrets qui accompagnait le logiciel Casimir, délivrer l'évaluation qui accompagnait le logiciel Casimir. Ben, ce que nous disaient les enseignants, on l'a bien vu, et Bruno l'a dit, c'est des évaluations qui étaient jugées trop technicistes, c'est-à-dire trop éloignées des préoccupations pédagogiques des enseignants. Donc qu'est-ce que font beaucoup d'enseignants? Ils font passer les livrets parce que c'est une tâche qu'ils trouvent lourde et répétitive, et puis quand ils ont passé les livrets, ben, ils les mettent dans un coin. S'ils font la restitution aux familles, on a de la chance, et généralement, ils vont même, certains, discréditer les évaluations nationales auprès des élèves en disant que ça sert à rien. Bon. La complexité du logiciel d'analyse de données, on a bien vu qu'en analysant le travail d'analyse des données, que c'était vraiment un logiciel qui avait été conçu, tu m'en voudras pas Pierre, mais par les psychométriciens du ministère de l'Éducation nationale. Parce que l'analyse des scores est d'une complexité telle, l'analyse statistique des scores, que même les enseignants de mathématiques qui sont pourtant formés à l'analyse des données ne parvenaient pas à s'en démener. Donc il y a une complexité véritablement algorithmique et en même temps ergonomique du logiciel, sans compter que des enseignants ne maîtrisaient pas le clavier numérique de l'ordinateur et donc avaient du mal à rentrer les données. Alors pour en sortir les données et faire des traitements, vous imaginez dans quel effroi ça pouvait les mettre. On a vu des situations où les enseignants et même les chefs d'établissement, plutôt que de s'emmerder avec les évaluations nationales, confier la tâche à des emplois jeunes ou à des surveillants qui passaient leur temps à remplir les données à toute vitesse. Alors, on ne pose pas les problèmes de codage que ça a dû poser. Mais enfin, je veux dire, et après, évidemment, les résultats des évaluations étaient peu utilisés à des fonctions de remédiation. La difficulté dans l'analyse des erreurs, mais ça, Bruno en a parlé, donc je reviens pas dessus. Et puis surtout, l'absence d'usage des banques d'outils. C'est-à-dire que la majorité des enseignants n'étaient même pas au courant qu'il existait des banques d'outils à disposition dans différentes disciplines qui pouvaient télécharger sur Internet pour utiliser à des fins de remédiation pédagogique. Donc là, je pense qu'il y a des progrès à faire. Si on regarde les évaluations nationales en Nouvelle-Zélande, et j'en ai pas parlé volontairement, mais je reviens un petit peu dessus, bah, on a formé les enseignants. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, on a formé deux classes d'enseignants, des enseignants administrateurs et des enseignants correcteurs. C'est-à-dire que les enseignants administrateurs, c'est ceux qui sont chargés de la passation des tests. D'accord. Pour cela, ils reçoivent une formation intensive d'une semaine, un soutien permanent. Ils font un travail rapproché avec les élèves, ils visitent des établissements différents et ils ont un temps hors la classe qui leur est donné pour réfléchir véritablement à la mise en œuvre de ces évaluations nationales. Donc, il y a véritablement une attention forte pour que les enseignants s'intéressent à l'administration des tests qui accompagnent ces évaluations nationales. Et puis, les enseignants correcteurs eux-mêmes sont formés. Ils ont une formation d'une deux semaines sur la correction des items. Ils ont des discussions régulières entre eux sur les critères de correction. Et puis, ils intègrent les scores de réussite et leur interprétation parmi d'autres formes d'évaluation. Et ce n'est pas du tout le cas en France. Pour l'instant, on l'a pas vraiment observé. Voilà, je terminerai sur quelles ressources trouver sur le site de l'UMR Éducation et Politique, parce que cette revue de la littérature dont j'ai parlé, j'en ai fait des traductions que j'ai mis en ligne sur notre site, donc pour à destination de ceux qui s'intéressent, formateurs ou praticiens ou chercheurs, avec un guide méthodologique pour les enseignants qui seraient intéressés par les pratiques de l'évaluation pour les apprentissages, et puis une vidéo en VO sous-titrée que je passerai dans l'atelier demain. Mais pour ceux qui participeront pas à cet atelier, ils peuvent y avoir accès, que j'ai traduit volontairement et que j'ai extraite d'un site du ministère de l'éducation anglais qui s'appelle Web Teachers, parce que sur ce site, c'est très intéressant, on a plein de situations pédagogiques qui sont présentées dans différents domaines du curriculum, dans l'évaluation, on interroge des enseignants, on interroge des inspecteurs, et il y a plein de clips vidéo qui peuvent être téléchargés gratuitement par les enseignants et qui sont autant de ressources à disposition en termes de formation et d'amélioration de leurs pratiques pédagogiques. Et puis pour ceux véritablement qui sont des mordus de l'évaluation, je tiens à leur disposition et sur un PowerPoint un certain nombre de travaux en langue anglaise sur lesquels je me suis appuyé en partie et qui développent ces notions d'évaluation pour les apprentissages. Voilà, merci.